topologie de l'univers. Donc, je ne sais pas si vous savez tous de quoi il s'agit, mais en gros, c'est une des questions à quoi répond la topologie de l'univers, c'est de savoir si l'univers est fini. Si jamais il est fini, s'il y a un bord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi la nuit est noire et tout ça? Donc, c'est des questions qui sont un petit peu compliquées, mais qui partent d'un esprit qui est assez simple. Je ne sais pas si vous allez à des fêtes de temps en temps, et si vous rencontrez, imaginez que vous rencontrez quelqu'un à une fête qui vous dit « Ah, je suis allé faire du tir à l'arc la semaine dernière dans un champ, et j'ai pris mon arc, j'ai tiré ma flèche, et paf, au milieu, dans l'air, la flèche s'est arrêtée, elle s'est retournée, et elle est revenue dessus. Je lui sautais par terre sur le côté pour l'éviter. » Et vous lui dites « Tu vas arrêter de boire. » Et pourquoi vous lui dites « Tu vas arrêter de boire ?» Parce que ça ne s'est jamais vu. Et on a tous une intuition des choses qui sont possibles et des choses qui ne sont pas possibles. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre univers, quelque part, il y a des lois de la nature. Et la physique, la science en général, essaie de trouver ces lois et essaie de les comprendre. Elles sont cachées parfois, elles sont très difficiles à voir, mais avec une chance inouïe, grâce à certains instruments, grâce à certaines pensées, grâce à certains penseurs, on arrive à découvrir ces lois parfois. Tout ce qui est autour de nous, on peut le refaire. La flèche, si vous ne me croyez pas, vous pouvez en tirer 10 000. Vous verrez bien qu'elle ne vous reviendra pas dessus. Sinon, ils n'auraient pas inventé l'arc. Ça aurait été un petit peu dangereux. Et on peut tout refaire quasiment à l'infini. Sauf une chose. Il y a une chose dans notre univers dont on n'a qu'un seul exemplaire, dont on ne peut pas sortir, dont on fait partie, c'est notre univers lui-même. Et lui, pour l'étudier, du coup, les règles sont un petit peu différentes. On ne peut pas comparer à d'autres univers, on ne peut pas se dire « Ah ben, on va essayer de le retourner, voir ce qui se passe de l'autre côté. » Ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le regarde. Alors, imaginez qu'on repart 2000 ans en arrière, vous êtes en Turquie, c'est l'été, sur la plage, peinard, c'est la nuit, vous regardez les étoiles. Vous voyez ça. Vous voyez là? On peut fermer un petit peu plus? Vous voyez quelque chose ou pas? Enfin, vous voyez des étoiles, des petits points. Et vous dites, bon, c'est pas très grave, on imagine qu'il y a des étoiles. Et vous avez de la chance parce qu'en revenant dans le passé, vous avez pris un appareil photo et vous dites, ah, ce soir je vois ça, qu'est-ce que je verrai demain? Est-ce que c'est pareil? Vous n'avez pas envie de revenir tous les soirs, vous prenez une photo toutes les deux semaines du ciel et vous voyez ça. Et vous êtes certain que vous n'avez pas bu, c'est l'appareil photo, il y a des étoiles qui ont une trajectoire bizarre dans le ciel. Vous allez voir les savants, vous leur montrez les photos, vous leur dites, regardez, il y a quand même des points bizarres dans le ciel. Les scientifiques se grattent la tête, et ils leur donnent un nom à ces étoiles bizarres, et ils les appellent des vagabondes. Mais on était en Turquie, et c'est les Grecs à l'époque qui avaient les scientifiques et les penseurs, et en grec, vagabonde, ça s'écrit comme ça. Vous reconnaissez tous? Eh bien, on va aller échanger les lettres une par une avec notre alphabet à nous. Les vagabondes qui sont dans le ciel et qui font des trajectoires bizarres, ce sont les planètes. À l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait. Et pour expliquer pourquoi elles ont un mouvement aussi étrange dans le ciel, il a fallu attendre plus de 1500 ans pour avoir une sorte de théorie de comment ça marche. Et le premier à avoir fait cette théorie, c'est Copernic. C'est lui qui a expliqué que le Soleil était au centre et que les planètes tournaient autour. Et vu que la Terre tourne elle aussi, ça donne des trajectoires bizarres, vu qu'on tourne avec. C'est comme quand on est dans une voiture et qu'on est dans un tournant. Les voitures à côté vont repasser devant, les arbres au loin vont rester derrière. Et donc il a découvert ça et il a peint un tableau magique. Il faut regarder les cercles parce que c'est tout petit. C'est lui qui a découvert que le système solaire marchait comme ça. Mais il n'avait pas forcément donné d'explication. Il s'est dit, pour qu'on voit ces trucs bizarres dans le ciel, faut que ce soit comme ça. Ok. 200 ans plus tard seulement, on a compris pourquoi c'était comme ça. Et le premier homme à avoir expliqué que avec une théorie pourquoi les planètes ont cette trajectoire bizarre qu'on retrouve ici, en tournant en rond. C'est lui. Si on le voit, c'est Newton. Newton, c'est le premier à avoir donné une théorie. Il a dit, ah, ça marche comme ça parce que plus un objet est gros, plus il attire les objets qui sont à côté. Donc il a fait sa théorie avec la masse, avec la gravitation. C'est le premier à avoir parlé de gravitation en termes mathématiques. Et il s'est dit, bon, je vais tester ma théorie de la gravitation en regardant toutes les planètes qui sont autour de nous. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez toutes, mais je vais vous donner les planètes par rapport à leur taille. La première, c'est la Terre. Ça donne ça à peu près en taille. Ensuite, par ordre en plus petit, il y a Vénus, il y a Mars et il y a Mercure. Ça, c'est les petites planètes. D'accord. Maintenant, il y a les planètes qui sont un peu plus grosses. Il y a Uranus, Neptune. Ça, c'est les vraies tailles relatives. Donc, la taille de la Terre qui est là, c'est la vraie taille par rapport à Uranus et Neptune. Par rapport à Saturne, ça donne ça. Et par rapport à Jupiter, ça donne ça. Pour tester ces théories, Newton, il a tout regardé. Il a regardé les planètes les plus grosses, les planètes les plus petites. Et il y a encore plus gros que ces planètes-là autour de nous. C'est notre Soleil, exactement. Vous voulez voir la taille de Jupiter par rapport au Soleil? Voilà. Et donc ceux qui sont dans le fond le verront probablement même pas, mais la Terre par rapport au Soleil, c'est le petit point qui est resté sous Jupiter. Donc par rapport au Soleil, ça fait pas grand chose. Donc pour vérifier ces théories, Newton, il a regardé la trajectoire des planètes autour du Soleil. Donc il a... On s'assort un peu, il y a le Soleil à droite, et là on a toutes les planètes dans l'ordre par rapport au Soleil, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre et Vénus. Et en dessous, c'est la trajectoire par rapport au Soleil. C'est extrêmement bien dessiné, je ne sais pas si vous en rendez compte. Ce cercle autour du... Enfin, cette ellipse autour du Soleil correspond à la trajectoire des planètes autour du Soleil. Et pour toutes ces planètes-là, Newton était pile poil. C'était parfait, ça marchait. Mais dans la liste que je viens de vous donner, il en manque une de planète. Celle qui est la plus proche du Soleil, Mercure, qui va apparaître maintenant. Et elles sont... L'ellipse autour du Soleil, elle fait ça. Elle tourne. Pluton, il est beaucoup plus loin et ça marche très bien pour Pluton. Mais pour Mercure, ça marche pas, ça tourne. Newton était incapable d'expliquer pourquoi ça tournait. Incapable. Il savait pas. Il y a un gros problème. Il savait... En fait, du coup, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit, si ça se trouve, la gravitation, je sais même pas ce que c'est. J'ai pondu une formule, mais qu'est-ce que ça veut dire tourner autour du Soleil? Pourquoi ça tourne autour du Soleil? Ça, c'est Mercure, c'est celle la coupable de tout ça. Donc en se posant la question de c'est quoi la gravitation, on va passer dans la théorie. Grâce à Newton, on peut passer dans la théorie et penser les choses. Donc là, c'est la Lune et la Terre, en vrai, et maintenant c'est de la théorie, c'est des boules. La Lune tourne autour de la Terre. Est-ce qu'il y a une corde qui tient la Lune? Est-ce que c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre? Personne n'a jamais vu. S'il y en a une, elle est invisible. Donc on va tout virer. On enlève la Lune, on enlève la Terre, et on se dit, si ça se trouve, c'est dans ce qui reste qu'il y a quelque chose, une fois qu'on a tout enlevé. Et ce qui reste, c'est l'espace. Peut-être que c'est l'espace lui-même qui est la source de cette gravitation. Alors, voilà, ça c'est l'espace. Disons, hein, pour voir. Et on va mettre dedans le Soleil et la Terre. Voilà. Qui courbe l'espace qui est autour d'eux. On se dit que ça se trouve, il y a un petit quelque chose qui se passe si on prend ce point de vue-là. Et pour bien visualiser, c'est pas un plan, genre une nappe sur laquelle on a posé une orange. C'est quelque chose qui se passe tout autour de nous, dont nous, on fait partie. On fait partie de cet espace qui est courbé tout autour de nous. Alors on va enlever la Terre et on va mettre cette courbure partout. La courbure est dans toutes les directions, partout autour du Soleil, mais elle est invisible. La seule manière qu'on a de la voir, c'est ce qu'on ressent nous, c'est la gravitation. Et la personne qui a découvert ça, qui s'est dit si ça se trouve, c'est des courbes dans l'espace lui-même qui font la gravitation, c'est quelqu'un qui a mis sa plus belle chemise pour prendre une photo, c'est lui. C'est Einstein. C'est lui qui a découvert que finalement, notre espace, notre temps, ce dans quoi on vit, interagit avec tout ce qui est dedans. que la masse a un effet, qui est la gravitation, et que tout ce qui se balade à l'intérieur est lié avec tout le reste. Il nous a permis de décrire quelque part ce qu'on appelle la géométrie de notre univers autour de tous les objets qui existent. Alors, je vais vous montrer quelques objets qui existent. On va aller chercher une étoile loin dans l'espace. Grâce à Einstein, on a compris comment marche l'espace qui est autour de cette étoile. Et on a même compris ce qui se passe à la fin de sa vie quand une étoile explose. Alors vous allez voir une image d'une étoile qui explose. Ça, c'est une vraie photo. On a pris dans l'espace d'une étoile qui a explosé. Elle s'appelle la nébuleuse de l'œil de chat. Il y en a plein des images comme ça dans l'espace, c'est magnifique. Bon, ça, c'en est une. Maintenant, il a aussi compris d'autres choses, Einstein, parce que pour Newton, Mercure, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc on est allé plus loin, et c'est grâce à ça qu'Einstein a découvert que finalement, notre espace n'était pas que ce qu'on pensait qu'il était, c'est-à-dire vide, sans bouger, mais qu'il réagit à ce qui est autour de lui. Il y a autre chose qu'on a découvert avec Einstein, c'est que certaines étoiles, en mourant, peuvent avoir un effet qui est beaucoup plus terrible. Et au lieu de devenir qu'un petit point blanc, comme vous voyez au milieu de cette image, ça peut devenir un trou noir. Alors je vais vous montrer ce que ça donne quand une étoile devient un trou noir. Et là, vous allez rentrer dedans. Ça fait toujours bizarre la première fois qu'on rentre dedans, je sais pas si ça vous a fait quelque chose. Vous venez de rentrer dans un trou noir qui est un endroit où la géométrie de l'univers devient bizarre. C'est un endroit où c'est les limites de la géométrie de notre univers. Mais tout ce que je viens de vous raconter, c'est des choses qui sont locales, qui entourent les objets qui sont dans l'univers. Maintenant, pour parler de topologie, et la topologie, c'est le mot que les mathématiciens donnent lorsqu'on regarde la forme globale de quelque chose, la forme totale de tout notre univers, et non pas juste autour des étoiles, eh bien, il va nous falloir autre chose. Alors, dans certains cas particuliers, grâce à Einstein, dans des cas ultra simples où on se dit, bon, finalement, l'univers, il n'y a rien dedans, ou bien s'il y a quelque chose, c'est partout pareil, dans toutes les directions, où qu'on soit, et tout ça, là, on peut réussir à avoir quelques réponses, quelques exemples de ce à quoi pourrait ressembler notre univers en entier. Bon. En essayant de mettre des grillages sur tout l'univers, en pensée, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué, on peut réussir à avoir quelques modèles de notre univers. Donc en voici trois. Les trois que les équations d'Einstein nous donnent. Ça, c'est tout notre univers en entier qu'on voit là, en tout cas sur celle du haut. C'est quelque chose de fini. Nous, on vivrait quelque part à la surface de cette sphère, même si c'est une sphère à plus de dimensions, mais ça, c'est un peu compliqué à visualiser. On pourrait très bien vivre là-dedans. Dans le premier cas, ça veut dire que notre univers est fini dans l'espace et dans le temps. Vous pourrez poser des questions après, si vous voulez. Dans le deuxième cas, ça voudrait dire que notre univers est infini et dans l'espace et dans le temps, et que si on lance deux faisceaux de lumière parallèles, ils s'écartent les uns des autres. Dans le premier cas, les deux faisceaux de lumière parallèles reviennent l'un dans l'autre. Dans le troisième cas, celui qu'on apprend à l'école, lorsqu'on lance deux faisceaux de lumière, ils restent parallèles. S'ils sont parallèles à un moment, ils restent parallèles tout le temps. Donc il y a deux autres géométries possibles. Mais ça, c'est dans les cas ultra simples où on s'est dit que tout est facile, tout est pareil partout. On voit très bien que tout n'est pas pareil partout. Il y a des étoiles à des endroits, il n'y en a pas à d'autres. Mais c'est des modèles qui nous permettent de penser quelque chose. Maintenant, il se trouve que notre univers, on ne le connaît pas si bien que ça. Ce qui fait que les hypothèses qu'on a prises dans les équations d'Einstein ne sont pas forcément correctes. Ça, si vous voulez, tout le rond, c'est tout ce qu'il y a dans notre univers. Alors, il y a un truc qu'on voit très bien dans l'espace, c'est ce qui brille, ce sont les étoiles, comme le Soleil. Vous avez une idée de ce que ça représente, toutes les étoiles de l'univers, par rapport à la masse totale de l'univers ? Alors, plus de 20%, plus de 50%? 2%? Combien tu dis? Ouais, la tranche verte. 0,4% de tout ce qu'on voit dans l'espace. C'est ça. Maintenant, la tranche violette, c'est le gaz qu'il y a entre les galaxies. Les galaxies, c'est des amas d'étoiles. Je vous en montrerai une tout à l'heure, même plusieurs. C'est des amas où les étoiles se regroupent dans l'espace. Tout le gaz qu'il y a entre ces galaxies correspond à 3,6% de la masse totale de l'univers. En gros. Maintenant, les galaxies, on voit là une, je ne sais pas si vous la voyez. C'est des amas où il y a à peu près 400 milliards d'étoiles à l'intérieur. Et grâce aux équations d'Einstein, on peut comprendre comment ça bouge à l'intérieur, grâce à la géométrie et tout ça. Donc on compare ce qu'on voit à ce qu'on calcule et on réalise qu'on n'a rien compris du tout. Ça ne marche pas du tout comme les équations le disent. Il manque énormément de matière. Il y a de la matière là-dedans qu'on ne voit pas. Et cette matière-là, on l'appelle la matière noire. La matière noire correspond à 22% de ce qu'il y a dans notre univers. Et maintenant, il y a encore quelque chose qui fait que les galaxies, tous ces amas d'étoiles qui sont parsemés dans tout notre univers, s'éloignent les unes des autres tout le temps. Ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais schématiquement, ça donne ça. C'est que toutes les étoiles s'éloignent tout le temps, tout le temps. Pour comprendre que ces galaxies s'éloignent, les scientifiques ont introduit une notion qui s'appelle la notion d'énergie sombre. Et cette énergie sombre correspond à 74% de l'énergie de notre univers. Donc nous, ce qu'on connaît, en gros, c'est les 0,4 là à droite, les étoiles, et le gaz intergalactique, donc 4%. C'est que dalle. On comprend rien, en fait, à ce qui se passe. Et du coup, si on regarde les équations d'Einstein, et si on essaie de comprendre à quoi ressemble notre univers, on se rend compte que on n'en a aucune idée. On ne peut pas savoir. Il n'y a aucune équation qui nous dit « ça ressemble à ça, ou ça, ou ça, ou ça ». Rien. Peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui trouvera plus tard, là c'est le prix Nobel assuré, mais pour l'instant on ne sait pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des hypothèses. Et on essaie d'aller au-delà des schémas que je vous ai montrés tout à l'heure avec le rond ou avec les plans un peu bizarres inclinés. Du coup, la question de savoir qu'est-ce qui se passe si l'univers est fini et qu'on passe la tête juste au bord, qu'est-ce qu'on voit derrière? Là, il voit quelque chose, revient à l'ordre du jour. Alors, il y a des mathématiciens qui se sont posé la question de manière assez formelle et qui ont essayé de trouver des explications à ce qu'on pourrait voir. Et même, peut-être, des choses un petit peu farfelues. Et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Et c'est ça, tous ces exemples de ce qu'on appelle la topologie de l'univers, c'est-à-dire sa forme en entier. On va reprendre une étoile. Sur cette étoile, sur ce schéma-là, l'étoile qu'on avait tout à l'heure, ces lignes, on dirait, les plans là qui arrivent sur les côtés, on dirait qu'ils viennent de l'infini. Mais rien ne nous dit que notre univers est infini. Rien. Et quand on y réfléchit un peu, tout ce qui est autour de nous, tout est fini. Tout a un début, une fin. Tout peut être englobé quelque part. Alors pourquoi pas notre univers lui aussi? Pourquoi est-ce que tout le monde se dit que l'univers est infini et qu'on peut aller dans toutes les directions tout le temps, tout le temps, tout le temps? On va essayer de voir si on ne peut pas le rendre un peu plus fini, cet univers-là. Et pour faire ça, on va regarder des formes bizarres que l'on peut empiler les unes sur les autres pour remplir tout l'espace. Alors ces formes, il y en a 5. Il y a celle-là, où il y a 4 faces, un tétraèdre. Il y a celle-là, où il y a 6 faces, c'est un cube. Il y a celle-là, où il y a 8 faces, un octaèdre. Je vous dirai pas les noms des deux derniers. Ça, c'est 12 faces, et le dernier, c'est 20 faces. Il se trouve que les mathématiciens se sont posé la question de savoir si on pourrait pas vivre dans un truc comme ça, au fond. Est-ce que c'est pas possible que notre univers soit comme ça, et puis quand on sort d'une face, ben en fait, on rentre dans celle d'après. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à ces faces-là? Il y a plein de raisons. Il y en a une qui est qu'il y en a dans la nature de ce genre de construction. Par exemple, le miel, enfin les... je sais plus comment ça s'appelle. Les alvéoles, merci. En dessous, il y a des rochers qu'on trouve en Islande, qui ont ce genre de forme-là aussi, et c'est des formes qu'on trouve à peu près partout dans tous les cristaux. Là, on voit un cristal, en gros, en haut, et en dessous, c'est la forme des molécules qui sont à l'intérieur. Donc pourquoi est-ce que notre univers ne serait pas comme ça? Pourquoi est-ce que notre univers ne serait pas un gros cube? Et quand on sort, quand on arrive juste au bord, au lieu de passer et de regarder, de voir quelque chose d'autre, on verrait quelque chose comme ça. Comme si on regardait dans un miroir et on ne voyait pas sa tête, mais son dos. C'est un tableau de Magritte. Ça, c'est très possible dans notre univers. Qu'au bord de l'univers, au lieu de sortir quelque part, on rentre derrière. Comme dans un jeu vidéo, quand vous sortez à droite de l'écran, le bonhomme il revient sur la gauche de l'écran. C'est exactement pareil. Pourquoi notre univers ne serait pas comme ça, comme un gros jeu vidéo? Si c'est le cas, avec un cube à la base, eh bien, si on met une fusée à l'intérieur et qu'on regarde devant nous la fusée, on verrait quelque chose comme ça. Il y a plein de fusées partout, mais en fait, c'est toute la même. Partout, tout le temps. Voilà un autre exemple avec un cube. Alors ça, c'est un cube, c'est une vraie sorte de simulation. C'est un cube qui fait à peu près 5 milliards d'années-lumière de côté. Ça se voit pas là sur l'écran, mais c'est un cube énorme dans lequel on a mis 50 galaxies. Si on l'ouvre pour le plaquer sur le ciel, pour voir ce qu'on verrait si on vivait dans un espace comme ça, on verrait ça. Il commence un peu à ressembler peut-être à ce qu'on voit. Et maintenant, si on met toutes les images des bords de cubes qui sont derrière, ça donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plein de petits points partout, et on pourrait croire que ça ressemble quand même pas mal à notre ciel. Il y a d'autres constructions possibles, comme celle-là, où notre univers serait à l'intérieur de la grosse boule qui est là, et avec des jeux de réflexion de miroir, un peu comme quand on rentre dans une pièce, tout notre espace, on le verrait une infinité de fois dans toutes les directions. Ça peut paraître bizarre, on se dit, on l'aurait vu si c'était le cas. Eh bien, c'est pas forcé, parce que le cube ou cette boule peut être énorme. Et il y a un truc qui rend la chose un petit peu plus compliquée, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde dans un cube, les galaxies et tout ça peuvent s'incliner, prendre une forme différente. Pire, le temps que la lumière arrive jusqu'à nous en partant de très loin, ça veut dire que parmi toutes les images qui sont là, on verra la même galaxie à la fois avant qu'elle naisse, pendant qu'elle est née, enfin quand elle naît, quand elle est jeune, quand elle est vieille, quand elle est morte. On verrait tout ça. Ça veut dire que vous tous, dans l'espace, si on vit dans un univers comme ça, il y a quelqu'un qui vous regarde alors que vous n'êtes pas encore né, en même temps que maintenant, en même temps que plus tard, quand vous serez plus vieux. Il verrait tout ça. Ça paraît un peu farfelu, mais je crois qu'au moins, il y en a au moins deux ou trois qui sont différents parmi vous, donc localement, ça se voit pas. Mais dans l'espace, ça peut très bien être le cas. Et c'est assez difficile de vérifier ça. Ça, c'est un autre espace où on voit une galaxie. Si on a le temps, je vous montrerai un petit film tout à l'heure, mais vous pouvez voir à certains endroits, comme là, que les galaxies sont inclinées. Elles n'ont pas toutes la même forme, elles n'ont pas toutes la même taille. Alors, je vais vous montrer des galaxies, à quoi ça ressemble dans l'univers. C'est ces amas où il y a des centaines de milliards d'étoiles qui sont les unes à côté des autres. Essayez de reconnaître là-dedans des choses. C'est extrêmement difficile. On ne sait pas si là-dedans il y a des images qu'on voit deux fois ou trois fois. Et les galaxies, ça ressemble à ça. Dans celle-là, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles, comme la nôtre, hein. Avec des planètes, peut-être des gens comme vous aussi. C'est assez joli, les galaxies. Ça, c'est des vraies photos, hein. C'est pas des films et tout ça. Et je vous dis juste un truc, c'est que depuis que les hommes et les femmes, depuis que l'humanité cherche à comprendre notre univers, ça fait 20 ans, donc c'est depuis que vous existez à peu près, qu'on voit ça. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais vu des photos de galaxies avant. Vous êtes les premiers. Et du coup, toutes les idées que vous pouvez avoir par rapport aux galaxies, par rapport à l'espace, par rapport à l'univers, personne n'a pu les avoir avant. Personne. Donc peut-être que je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que parmi vous, certains vont avoir des idées qui peuvent révolutionner tout ça grâce aux nouvelles images qu'on arrive à avoir tout le temps. Grâce aux nouvelles fenêtres et aux nouveaux yeux, aux nouvelles expériences qu'on fait en permanence. Nous, on vit dans une galaxie comme ça, d'ailleurs. Le Soleil fait partie d'un des bras d'une galaxie comme ça, mais c'est énorme. Je vous dis, à peu près, dans notre galaxie à nous, il y a à peu près 400 milliards d'étoiles. Nous, on est une là-dedans, qui est une étoile moyenne, qui est située à l'extérieur d'un des bras. Évidemment, on n'a jamais pris de photo de notre galaxie à nous. Ça, c'est des galaxies d'autres ailleurs dans l'univers. Parce que pour prendre une galaxie, notre galaxie en photo, il faudrait en sortir. Et pour sortir de notre galaxie, ça prendrait dans les plusieurs dizaines de milliers d'années pour envoyer un satellite là-haut prendre une photo. Donc le temps que ça revienne, de toute façon, on s'en fiche un peu. Alors comment est-ce qu'on va faire pour essayer de vérifier quelque part si notre univers est dans un cube ou dans une boule, avec tout ce qui se reflète tout autour? Dans notre univers à nous, c'est extrêmement compliqué de regarder loin et de faire la différence entre les différents endroits. Alors ce qu'on peut faire, en revanche, c'est essayer de réfléchir s'il n'y a pas un endroit où c'est un petit peu plus simple. Et pour faire ça, il suffit d'avoir une idée par rapport à est-ce qu'il y a un moment où notre univers était plus petit? Eh bien oui, il y a un moment où il était beaucoup plus petit. Et ça, on le sait parce que, comme je vous avais montré tout à l'heure ou comme je vous ai dit, les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Tout ce qu'on regarde dans le ciel la nuit, pas les étoiles, hein, les étoiles, elles restent à côté de nous. Mais les galaxies qui sont beaucoup plus loin s'éloignent toutes de nous, tout le temps. Donc si on veut y aller pour leur dire coucou, il faut partir maintenant. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps ou bien trouver un autre moyen de faire des trous dans l'espace-temps, des choses un peu de science-fiction. Mais pour l'instant, tout s'éloigne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, il y a longtemps, tout était beaucoup plus proche que nous. Et quand on remonte en arrière jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, on se rend compte qu'il y a environ 13 milliards d'années, tout était ensemble dans un volume tout petit. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a réalisé ce genre de choses, c'est là que sont nées les théories qui s'appellent les théories du Big Bang. C'est grâce à cette idée que, il y a longtemps, tout était beaucoup plus petit, que l'idée du Big Bang, de création de notre univers, est apparue. Alors si on se dit ça, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de regarder le Big Bang? C'est un petit peu difficile. Surtout qu'au début, tout était tellement chaud, tout était tellement dense, tout l'univers en entier était un énorme magma de plusieurs centaines de millions de degrés qui se refroidissait en grandissant et qui arrivait à un moment, 380 000 ans après sa naissance, où soudain, la lumière pouvait le traverser. Avant, c'était trop chaud, trop dense, il y avait trop de trucs partout, tout se rentrait dedans tout le temps, la lumière ne pouvait pas avancer, on ne voyait rien. Et paf, au bout de 380 000 ans, tout d'un coup, c'est devenu suffisamment froid, suffisamment grand, pour que la lumière passe au travers. Et à ce moment-là, ça a laissé... Et à ce moment-là, il faisait à peu près 3000 degrés dans notre univers, en entier, hein, partout. Même sur Terre, la Terre n'existait pas, mais partout, il faisait 3000 degrés. Et ce rayonnement à 3000 degrés, il existe encore aujourd'hui. Sauf que l'univers s'est énormément agrandi, et du coup, ce rayonnement s'est refroidi. Et aujourd'hui, il est, au lieu d'être à 3000 degrés comme il était il y a 13 milliards d'années, il fait moins 270 degrés dans l'univers. Et ce moins 270 degrés, on le voit aujourd'hui encore partout dans l'espace. Pas avec nos yeux, parce que nos yeux ne voient pas tout. Ils voient qu'une certaine partie de la lumière, mais on a réussi à fabriquer des détecteurs, des télescopes qui permettent de voir ces lumières-là, tout comme elles permettent de voir ce qu'on appelle les rayons ultraviolets, que nos yeux ne voient pas, mais que certains oiseaux arrivent à voir, la lumière infrarouge, les rayons X et tout ça. On arrive à voir tout ça. Et donc je vais vous montrer, alors attention, vous allez voir le Big Bang, c'est très impressionnant. Il faut se concentrer, ça ne dure pas longtemps. Voilà, c'était le Big Bang. Après le Big Bang, une fois que ça a été fait, l'univers a donc grandi, il était ultra chaud, et on ne voyait rien à l'intérieur. C'était même pas blanc, c'était même pas noir, c'était opaque. Bon, là je l'ai mis en blanc, parce que noir sur noir on voit rien. Mais ça c'est tout notre univers qui grandit. Et paf, comme je vous le disais, au bout de 380 000 ans, l'univers est devenu transparent, et a laissé partout dans l'espace, tout autour de nous, dans toutes les directions où on regarde, des indices sur ce qui se passait avant. On a des indices partout, et il nous faut juste les comprendre. Il y en a partout, qui nous expliquent ce qui se passait avant. Ces 3000 degrés, ça donne ça. Et quand on a découvert ce rayonnement qui restait, qui fait donc aujourd'hui moins 270 degrés, on voyait qu'un truc uniforme comme ça. Ce qui fait qu'on ne comprenait absolument rien de comment ont pu être créées les galaxies, comment ont pu être créées les étoiles, d'où ça vient, ça... Aucune idée. Alors on a essayé de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passait là-dedans, et on a vu que tout n'était pas uniforme, qu'il y avait des petits changements à gauche à droite. Et voilà une des dernières photos qu'on a du ciel de cette époque. Alors ça, Ça peut pas paraître grand-chose, hein, cette image. Néanmoins, c'est la meilleure preuve qu'on a de l'existence du Big Bang. Et caché à l'intérieur d'une image comme ça, il y a les secrets de l'origine de notre univers. On ne sait pas exactement comment les décrypter, on ne sait pas exactement comment tout regarder, mais on sait que, à cause des toutes petites variations qu'il y a entre un endroit et un autre, sont apparues les étoiles, sont apparues les galaxies, et c'est ça qu'on essaye de regarder avec nos télescopes. Alors, j'ai pris un petit film sur un site de la NASA, ça va un peu vite, mais voilà. On va rentrer à l'intérieur et voir ce qui se passe. Pardon. Là, il y a la poussière qui se met ensemble à cause des petites fluctuations qu'on avait, et les étoiles apparaissent et se regroupent en galaxies. Ça, c'était il y a... C'était dans les 100 millions d'années après la naissance de notre univers. Et c'est ça que les télescopes qu'on envoie dans l'espace essayent de regarder. On envoie des télescopes là-haut qui regardent à travers toutes ces couches et derrière, qui essayent de comprendre où sont nées les étoiles et tout ça. À l'époque de cette surface, quand il faisait 300 000 degrés et tout ça, l'univers était énormément plus petit qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez, toutes les secondes, ça rajoute 300 000 km en taille entre tout dans notre univers. Et du coup, ça fait 13 milliards d'années que notre univers est en expansion, mais qu'il est énorme par rapport à l'époque. Et ce qu'on essaie de faire, ce qu'essayent de faire les scientifiques, c'est de retrouver dans les traces, dans cette photo, des images qui seraient multiples, qui correspondent à plusieurs visions. Quand on regarde à droite dans le cube que je vous montrais tout à l'heure, ils essaient de vérifier si notre univers est effectivement à la taille d'un cube qui se reflète dans les murs, comme le tableau qu'on avait vu de Magritte, et ils essaient de retrouver là-dedans des images qui apparaîtraient plusieurs fois. Et c'est beaucoup plus facile de regarder là-dedans que de regarder sur une image comme celle-ci. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure, la bleue et jaune, avec la photo du fond du ciel, c'est derrière ça. Et ça, la photo que vous voyez là, c'est la photo la plus ancienne des galaxies qu'on arrive à voir dans notre univers. Alors juste pour vous donner une petite idée, si vous prenez une pièce de 5 centimes d'euros et que vous la tenez à bout de bras, non, à 10 mètres de vous, et que vous la regardez, ça c'est la taille du ciel que ça regarde. Ça correspond à ça. Genre un truc tout petit qui est là-haut. Et tous les points que vous voyez sur cette image, tous, correspondent à des galaxies. C'est-à-dire que dans tous ces points-là, il y a entre 100 et 300 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et le point, il est tout petit, dans le ciel. Alors essayez d'aller retrouver des choses qui correspondent à des doubles, à des moments différents de leur vie, c'est extrêmement difficile. Maintenant, pour avoir la forme réelle de notre univers, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les théories d'Einstein ne donnent pas la solution. Ils ne nous disent pas comment doit être l'univers. Et pour avoir une vraie théorie, on va dire, qui nous explique comment notre univers marche, comment il est né, qu'est-ce qui va lui arriver plus tard, il manque une théorie que les scientifiques aujourd'hui appellent la théorie du tout, une théorie universelle qui engloberait tout le savoir qu'on a dans les différents domaines, que ce soit dans le tout petit, dans ce qu'on appelle la physique quantique, et dans le très grand, comme là, et qui l'unifie en une seule théorie. On n'y est pas encore, une fois de plus, ce sera peut-être l'un de vous, mais en tout cas, pour l'instant, on est les premiers à voir ce genre d'images qui nous permettent de comprendre notre univers. Alors voilà, j'ai pas voulu faire trop long, donc je sais pas combien de temps ça fait, mais je vais m'arrêter là, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur n'importe quoi, il n'y a aucun problème.